Voilà, béni soit Dieu. Je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus. Un bon nombre ont été rencontrés déjà depuis que nous sommes ici et j'ai pu les saluer individuellement. Mais pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, eh bien sachez que je vous salue chaleureusement dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux d'être ensemble. Je ne vais rien rajouter à ce qui vient d'être dit. Simplement vous dire ceci, ce séminaire ne dépend pas de Dieu. Du côté de Dieu, tout est déjà fait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ce séminaire dépend de vous. Il sera ce que vous le ferez. Alors, si vous êtes venu passer des vacances, je vous souhaite bonnes vacances et sortez vite de la salle. Parce que vous n'avez rien à faire là et je n'ai pas de temps à perdre. Mais si nous sommes venus pour le Seigneur, alors certainement nous serons bénis.
Amen.
Parce que la parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une promesse, elle est vraie et nous pouvons l'expérimenter. C'est vrai que nous nous sommes tenus devant le Seigneur longuement pour connaître quelle était la pensée de Dieu pour ce séminaire. Et je crois que Dieu a mis sur mon cœur cette pensée de vous parler pendant ces 8 réunions que nous aurons ensemble de la Nouvelle Jérusalem. Nous aborderons donc l'avant-dernier chapitre de la Bible. Je pense que lorsqu'un homme a le désir d'écrire un livre, il soigne chacune de ses pages. Mais il va veiller aussi à la fin du livre. Parce que finalement, c'est ce qui va rester pour le lecteur, ce qu'il aura lu dans les dernières pages. Toute la parole de Dieu est inspirée du Saint-Esprit. Chaque page, chaque ligne, est porteuse de tout le message de Dieu pour l'humanité. Et je crois à l'importance des dernières pages de la Bible. Pourquoi ? Parce que vous le verrez avec moi pendant ces 8 réunions, elles nous projettent vers ce que Dieu prépare pour son peuple. Et ce qui est dit dans ces dernières lignes de la Bible, c'est ce que Dieu a institué et qui va demeurer pour l'éternité. Il n'y aura rien d'autre après. Il n'y aura rien de plus. Il n'y aura rien de plus excellent. Et c'est ce vers quoi nous allons. Et c'est ce qui doit motiver notre marche chrétienne. J'ai eu l'occasion, dans la dernière mission chez Gagou, de faire une introduction à cette étude sur la Nouvelle Jérusalem. Alors ce soir, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Nous allons ensemble ouvrir cette étude-là. N'attendez pas de moi une étude biblique savante qui va vous amener à des connaissances de la tête. Ça ne sert à rien. Parfois, on m'embarque dans toutes sortes de questions complètement inutiles parce qu'elles n'apportent rien à notre vie chrétienne. Je crois que ce qui est important dans le temps où nous sommes, c'est de choses pratiques. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à m'enseigner pour que ma vie chrétienne soit une vie chrétienne agréable à Dieu? Comment il faut que je vive pour me préparer à ce qui vient pour moi. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. La lecture que nous ferons tout à l'heure va être très longue. Mais je vous demande d'y prêter beaucoup d'attention parce qu'elle va fixer tout ce que nous dirons au cours de ce séminaire. Mais avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais que nous nous recueillions encore et que nous prions le Seigneur de tout notre cœur. Notre bon Père céleste, c'est à toi que nous avons recours en cet instant. Nous savons bien que toute l'Écriture a été soufflée hors de toi et qu'elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les enfants ont prié tout à l'heure pour que ton onction repose sur ma vie. Et je veux aussi prier pour que ton onction repose sur eux.
Amen.
Que tu oignes leurs oreilles, leur cœur.
Amen.
Et qu'ensemble, nous recevions le conseil divin.
Amen.
Oh, s'il te plaît, mets ton sceau sur cette première réunion.
Amen.
Touche nos vies.
Amen.
Touche nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc ouvrir notre Bible au chapitre 21 de l'Apocalypse et nous lirons à partir du verset 1er. Si vous avez amené votre Bible dans ce séminaire, et je pense que c'était une bonne chose de le faire, il me semble que c'est la première chose à laquelle nous avons pensé. Amenez la parole de Dieu. Si vous avez oublié de la prendre avec vous pour cette réunion, amenez-la dès demain matin. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris. » Car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et vous serez d'accord avec moi, Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Et s'il y a une telle description de la Nouvelle Jérusalem, c'est qu'au travers du message de Dieu, il y a quelque chose de divin que le Seigneur désire déposer dans nos cœurs par son Esprit Saint. Quand on a lu le livre de l'Apocalypse, il peut rester dans notre cœur diverses impressions. Et on peut, chacun pour sa part, essayer de définir quel est le thème de ce livre difficile et parfois effrayant. L'esprit négatif pourra dire dans l'Apocalypse qu'il y a des choses terribles. Les anges frappent la terre de toutes sortes de fléaux, c'est horrible, c'est terrifiant, ça fait peur. Et puis d'autres vont lire ce livre avec d'autres yeux, ceux de la foi. Et pour ce qui me concerne, je vois dans l'Apocalypse un thème central, fondamental, qui m'encourage. Et j'aimerais déjà laisser cette première pensée forte dans votre cœur. Quel est finalement le grand message du livre de l'Apocalypse ? C'est que la victoire n'appartient jamais au diable. Jamais. Il y a dans l'Apocalypse le grand dragon, le serpent ancien, il y a l'antéchrist, il y a le faux prophète, il y a les saints du Seigneur décapités à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. Il y a sur la terre beaucoup de catastrophes. On a le sentiment que pendant un temps, le diable mène le mal. Mais finalement, quand on lit bien, avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, on s'aperçoit que la victoire appartient à Christ. Amen. C'est Dieu qui gagne à la fin. Amen. Même si le plan de Dieu semble échouer pour un temps, à certaines pages, nous remarquons que le triomphe final de Dieu est assuré. Alors c'est vrai dans l'Apocalypse, et ça va être vrai à l'échelle planétaire, mais j'aimerais ramener ces choses ce soir pour votre vie. Et j'aimerais les laisser d'une manière pratique pour ta vie. Le Dieu dans lequel je crois, le Dieu sur lequel j'ai bâti ma vie dès l'âge de 16 ans, le Dieu que je prêche depuis l'âge de 18 ans, c'est le Dieu qui gagne toujours. Dieu ne commet aucune erreur, Dieu ne se trompe jamais. Et j'ai beau lire et relire ma Bible, je la lis entière deux fois par an, je ne vois jamais dans la Bible Dieu qui perd. Dieu est un Dieu qui gagne toujours. Et j'aimerais vous dire, dès le début de ce séminaire, pour vous donner envie de revenir demain matin et de ne pas partir dès ce soir, c'est que nous sommes vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez que l'apôtre Paul, au cours de sa vie et de son ministère, a connu toutes sortes de difficultés. Mais écoutez bien ces paroles dans l'Épître aux Romains. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça veut dire, qu'est-ce qui pourrait empêcher Christ de m'aimer? Ce soir, descends au fond de ton cœur et pose-toi franchement la question. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Christ de m'aimer? Sera-ce la tribulation? Il est possible, mon frère, qu'en venant à ce séminaire, tu sois dans la position d'un chrétien qui est en train de traverser des difficultés énormes. La tribulation ne peut pas empêcher Jésus de t'aimer. Ou l'angoisse, et Dieu est très pratique, lui qui nous demande de saisir sa paix surnaturelle, sait très bien que devant certaines situations, le premier réflexe de notre nature humaine, c'est d'angoisser, parfois de paniquer. Et il est possible que, ma sœur, dans ton cœur ce soir, tu sois venu à ce séminaire avec de l'angoisse, parce que, dans le foyer, il y a telle situation, dans ta vie, il y a tel problème, et l'inquiétude est là. L'angoisse ne peut pas empêcher Jésus de t'aimer. Ou la persécution, parce que nous sommes chrétiens, nous nous envoyons de toutes les couleurs avec la famille. Il y a des moqueries, il y a des petits coups par derrière, il y a parfois des insultes, il y a parfois toutes sortes de difficultés. Est-ce que la persécution pourrait empêcher Jésus de m'aimer? Ou la faim? Ou la nudité? Ce n'est pas notre situation pour l'instant en Occident. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens, des frères, des sœurs dans le monde aujourd'hui qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Sinon Jésus. Ils ont faim ce soir. Il y a des chrétiens dans le monde qui n'ont pas mangé ce soir. Il y a des chrétiens dans le monde ce soir qui sont nus, ils n'ont pas le nécessaire pour se vêtir. Ces situations difficiles, matérielles, n'empêchent pas Jésus de les aimer. Ou le péril, ou l'épée, ça peut aller jusque-là. Certains de nos frères, dans des régimes de fous, sont décapités, mis à mort. Le péril, l'épée, ne peut pas empêcher Jésus de les aimer. Et l'apôtre ajoute, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Et Jésus sait que des enfants de Dieu souffrent à cause de lui. Il sait que l'amour de ces chrétiens est un amour entier, qu'ils ne sont pas décidés à établir des compromis, à faiblir, mais qu'ils veulent rester attachés à Jésus jusqu'au bout. Et c'est à cause de Jésus qu'ils souffrent ces choses et qu'on les met à mort tout le jour. Paul dit qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à leur maître, qui a été comme l'agneau muet devant ceux qui le tombent, et comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Ce qu'on a fait à Jésus, on va te le faire, si tu es fidèle. Quand un chrétien n'a pas de problème, il m'inquiète. Quand un chrétien n'a pas d'ennemi, il m'inquiète. Quand un serviteur de Dieu est applaudi par tout le monde, il m'inquiète. Parce que ça, c'est pas possible. Si tu es fidèle à Jésus, si tu es fidèle à sa parole, fidèle dans ton témoignage, fidèle dans ta prédication, tu vas avoir des difficultés. Parce que ce qu'on a fait au maître, on va le faire au disciple. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il a été la brebis menée à la boucherie, et ici, je vois que ses enfants passent par le même chemin. Mais Paul écrit, mais dans toutes ces choses, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il n'avait pas oublié des choses dans la liste, mais le Saint-Esprit va en rajouter encore. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur quand tu es en haut, ni la profondeur quand tu es en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il me semble que ça a été une bouffée d'air frais pour Jean, cette révélation de l'Apocalypse. Pas certaines phases, mais la fin. Jean a 90 ans à peu près. Il a vécu des choses magnifiques avec le Seigneur, en tant que simple chrétien, mais en tant que serviteur de Dieu. Il a établi avec Jésus une relation privilégiée dans la communion, dans l'intimité. L'Écriture me dit quand même que Jean était le disciple que Jésus aimait. Non pas que Jésus fasse des préférences, mais Jean aimait tellement Jésus d'une façon particulière, intime. Il aimait la présence de Jésus, l'intimité de Jésus, la révélation de Jésus, il buvait les paroles de Jésus. Il y avait une telle soif de Christ dans la vie de Jean que c'était le disciple que Jésus aimait. Un certain soir de ténèbres, c'est quand même lui qui a eu une grande révélation, celle du traître, parce qu'il avait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Jean, après l'ascension de Jésus, a eu un ministère extrêmement glorieux au sein de l'Église primitive. À la fin de sa vie, il est exilé sur l'île de Patmos. Vous imaginez ce vieillard de 90 ans qui a eu tout un cheminement glorieux avec le Seigneur, qui a été béni et qui a été en bénédiction à des multitudes et qui se retrouve exilé, isolé sur son île de Patmos. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, à la souffrance, à cause de la parole de Jésus, à cause du témoignage de Jésus. Et là, dans cet isolement, dans cet exil, où il est coupé loin de ses frères, loin de ses sœurs, loin des églises dans lesquelles il a travaillé et peut-être fondé, voilà qu'au jour du Seigneur, il est ravi, il est transporté dans des révélations extraordinaires et il va écrire le dernier livre de la Bible. Et cet avant-dernier chapitre qui va nous préoccuper jusqu'à samedi matin. Quand il a vu la nouvelle Jérusalem, mais qu'est-ce que c'était que ces blessures sur le corps? Qu'est-ce que c'était que les bourreaux? Qu'est-ce que c'était que les chaînes? Vous imaginez, nous on lit, mais lui il a vu. Au chapitre premier, ça commence par la révélation de Jésus dans sa gloire. Et là, il n'a pas envie de danser le flamenco, il n'a pas envie de se trémousser. Il tombe aux pieds de Jésus comme mort. Plus nous allons grandir dans la révélation de Jésus, plus nous nous allons nous abaisser et mourir. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans sa prière qu'il fallait que Jésus croisse et que nous diminuions. Nous avons là, dans l'expérience de l'île de Patmos, la réalité des choses. Aux gens connaissaient Jésus, pardonnez-moi de vous dire ceci, bien plus que vous ne le connaissez, et bien plus que je ne le connais. Ils connaissaient Jésus. Mais qui peut dire qu'il connaît Jésus? La vie éternelle, c'est de le connaître. Et là, sur l'île de Patmos, il découvre son Seigneur comme il ne l'a jamais connu. Dans sa gloire, resplendissant de lumière, resplendissant de beauté, resplendissant de sainteté, de pureté, de vérité. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et puis il y a toute la révélation de l'Apocalypse. C'est pas où je m'embarque, là. On n'est sûrement pas arrivé à la fin de la Jérusalem samedi. Hein. Mais dans l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, ce n'est pas Jésus dans sa gloire qu'il voit seulement, c'est l'Église dans la gloire de Jésus. Et il voit l'ensemble de l'œuvre de Dieu achevée. Il voit l'Église achevée. Il voit l'Église dans sa perfection. Il voit l'Église dans la vérité finale. Il voit l'Église dans la pureté finale. Le plan de Dieu est achevé et il est parfait. Il est baptisé dans la gloire de Dieu. Quelle bouffée d'air frais pour lui. Oh, tu peux mourir, Jean. Là, cette fois, t'en as assez vu. L'île de Patmos, ce n'est plus rien à côté de la gloire que tu viens de contempler. Tes souffrances, ta solitude, les incompréhensions, tout ce qu'on t'a fait, les frustrations, tu laisses tout ça de côté, tu viens de le voir dans sa gloire et tu viens de contempler son œuvre finale dans une gloire extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Pour que dès cette première réunion, nous saisissions l'esprit de l'Apocalypse. Et l'esprit de l'Apocalypse, c'est d'être animé de cet esprit de victoire et de cet esprit de foi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, s'adressant aux sept églises d'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, va terminer chacun de ces sept messages prophétiques par une note de victoire. Trois fois, il va dire que celui qui a des oreilles pour entendre. Est-ce que tout le monde a bien deux oreilles ce soir? Si vous n'en avez qu'une, ou pas du tout, levez la main. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Par vos oreilles, vous ne respirez pas. Par vos oreilles, vous ne voyez pas. Dieu a fait deux oreilles à chacun de nous pour entendre. Eh bien, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Céline Dion, les sottises du monde, les vains bavardages, les médisances, est-ce que tes oreilles ont été mises sur l'autel de Dieu? Qu'est-ce que tu te plais à écouter? Qu'est-ce que tu te plais à entendre? Est-ce que ton corps a été sanctifié et livré au Seigneur? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin qu'il y ait là sur le lobe de ton oreille le sang purificateur? Après avoir été guéri de la lèpre du péché, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une consécration et que le sang soit mis sur le lobe de ton oreille? Et qu'après le sang purificateur, sur le sang, il y ait l'huile? Regardez le livre du Lévitique, vous trouverez ça dedans. Seigneur, j'ai besoin ce soir que sur mes oreilles, il y ait le sang qui purifie. Pardon pour ce que j'ai accepté d'écouter. Pardon pour les conversations qui ont satisfait quelque chose de malsain en moi, mais qui ont attristé mon esprit. Je te demande pardon. Est-ce que ça va vous paraître bizarre de faire cette prière ce soir? Seigneur, je t'apporte mes oreilles pour que tu les purifies. Je t'apporte mes oreilles pour que tu mettes ton onction sur elles et que j'apprenne à écouter comme tu le demandes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Qu'est-ce qu'il a à dire aux églises? À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est le message de Jésus par le Saint-Esprit aux églises. Aux églises rassemblées ici ce soir, à ton foyer, à ta vie, il faut que tu sois un vainqueur. Oh là là, à partir du chapitre 6, ça se gâte dans la Bible. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il a dit à celui qui vaincra. Parce que ça ne va pas être facile. Parce que le diable est en train de faire chauffer les turbines de l'enfer. Parce qu'il est en train de mobiliser les démons. Et il est descendu vers la terre animé d'une grande colère parce qu'il lui reste peu de temps. Et il a deux cibles, Israël et l'Église. Parce que ces deux cibles sont les deux choses dont Dieu veut s'occuper et dans lesquelles il veut manifester sa gloire pour toujours. Et ça, le diable veut tuer ça. Israël et l'Église. Et nous le sentons venir. À vitesse grand V. Alors Jésus s'adresse aux Églises, c'est pas de la rigolade. Il te parle, mon frère, il me parle. Et il dit à celui qui vaincra. Autrement dit, il faut que tu sois un vainqueur. Que tu ne sois pas là dans ta mollesse, dans ta paresse, dans ta nonchalance, dans ton découragement, ta dépression, mais que ce soir tu boives au torrent, que tu relèves la tête, que tu te dresses sur tes pieds et que tu dises « Il va me rendre capable d'être debout. Il va me rendre capable d'avancer. » Il va me rendre capable de progresser, il va me rendre capable de combattre et de triompher, parce qu'il a dit à celui qui vaincra, c'est donc que c'est possible. Trois fois il le dit. Et puis quatre fois, puisqu'il y a cette église, quatre fois Jésus dit celui qui vaincra. Et il fait des promesses extraordinaires pour le présent et pour l'avenir. Alors je marque un petit temps d'arrêt. Avant d'aller vers les grandes choses de la Nouvelle Jérusalem, je m'arrête sur ma vie ce soir. Et je me dis, mais Jésus, est-ce que je réjouis ton cœur? Est-ce que je fais ta joie? Est-ce que je peux vraiment avoir part à la communion du Saint-Esprit? Ou comme dit Paul dans 1 Corinthiens 13, 13, à la communication du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut vraiment communiquer avec moi? Tout simplement parce que, non pas par moi-même, par mes mérites, mais par la grâce de Dieu, je suis un vainqueur. Je ne laisse pas faire par le diable. Je triomphe dans ma vie. Je triomphe au niveau de mes tentations. Je triomphe au niveau de mes tendances. Je triomphe au niveau de mon quotidien, dans des multiples domaines où l'adversaire voudrait me faire sombrer. Je triomphe dans ma vie chrétienne. Je triomphe dans mon travail. J'évite tous les pièges, toutes les souillures, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui s'apparente au péché. Je triomphe dans mon foyer, dans l'atmosphère avec mon mari, avec ma femme, dans mes conversations, dans les choses ordinaires de notre foyer. Nous sommes des chrétiens. Nous n'acceptons pas le péché, nous sommes des vainqueurs. Est-ce que tu peux dire ça? Si ce soir tu ne pouvais pas le dire, la solution n'est pas de sombrer dans le découragement, mais de dire, Seigneur, cette première réunion, c'est ta main qui déjà se tend vers moi. Avant qu'on aille plus loin, Seigneur, je veux pouvoir aller plus loin avec toi, que tu m'emmènes plus loin.
Amen.
Et ce soir, je veux mettre ma main dans ta main. Il avait plus de 40 ans, Il n'avait jamais marché de sa vie. Ah, il est aimé. Je vous promets, il est aimé. Il était même vivant. Et au niveau de la vie, écoutez ça, au niveau de la vie, il n'avait pas moins de vie que tu en as ce soir. Il avait autant de vie. Son problème, c'était au niveau des pieds. Il était incapable de marcher. Ses pieds, ses chevilles étaient faibles. Jamais il ne s'était tenu debout. Et moi, je vous dis ce soir qu'au milieu de nous, et je ne le dis pas d'une façon agressive, Dieu est témoin, je vous le dis avec amour.
Amen.
Je sens qu'au milieu de nous ce soir, il y a des chrétiens qui sont nés de Dieu. On ne peut pas nier ça. Ils ont reçu un jour la vie du Seigneur. Ils sont venus à lui de tout leur cœur. Ils sont vivants. Mais quelque chose ne s'est jamais fait au niveau de leur vie. Ils sont nés, ils sont vivants, mais infirmes, impotents. Ils n'ont jamais vraiment été capables de marcher vraiment dans la vie du Seigneur. Ils n'ont pas été capables de faire des progrès, d'avancer. Quelque chose c'est mal fait au niveau de la naissance. Et c'est un fait que dans nos assemblées, il y a des chrétiens qui sont mal nés. On ne peut pas nier qu'ils sont nés. Ils sont nés. Mais ils sont mal nés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde-nous. Et j'ose dire ça ce soir. Oui. J'ose dire ça ce soir parce que je crois que les serviteurs de Dieu parfois ont quelque chose à communiquer aux autres. Ou sinon, ce n'est pas la peine de servir le Seigneur. Alors, je vais te dire ce soir, regarde-nous. Oh, non pas pour tuer une Porsche hein, ou une Ferrari. Nous n'avons ni argent ni or. On n'est pas là pour les biens matériels. On n'est pas au séminaire pour gagner plus d'argent. Pour chiner mieux, c'est pas ça le but. Mais ce que nous avons, nous allons te le donner ce soir.
Amen.
Ce n'est pas quelque chose qui est à nous. C'est quelque chose qui est en nous, qui passe au travers de nous. Je crois ça. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Entends cet appel de l'Esprit, c'est le grand message de l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Ceux qui vont faire partie de la nouvelle Jérusalem, et on va quand même en parler, rassurez-vous, on y va doucement parce qu'on a le temps, ceux qui feront partie de la nouvelle Jérusalem, ce seront des vainqueurs. Ce sont des gens qui auront été vainqueurs. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura aucun vaincu. Ceux qui auront été vaincus ne feront pas partie de la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le chapitre 21. Et c'est pourquoi au chapitre 2 et 3, Jésus insiste. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Cette fois, c'est un message parfait qui nous appelle à la perfection. Il faut que je sois vainqueur. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Alors le reste, ne me demandez pas de vous l'expliquer, mais c'est glorieux. En un instant, les pieds et les chevilles deviennent fermes. Et quand il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme, le corps, il y a un triple miracle. Ce jour-là, à la belle porte du temple. Miracle dans le corps. Les pieds et les chevilles deviennent fermes et il se met debout. Miracle dans l'âme. Il saute. Ça veut dire que la joie est entrée dans son cœur. Cette joie-là, il ne l'a jamais connue pendant plus de 40 ans. On le mettait pourtant à la belle porte du temple, mais être à la belle porte du temple, c'est pas être dans le temple. Et parfois, on est à côté de la vraie vie chrétienne. On est à côté du peuple de Dieu. Oh, on n'est pas loin. On peut même presque entendre les sons qui sortent du temple. Mais on ne peut pas y participer parce qu'on ne marche pas, on n'arrive pas à marcher. La joie, l'âme est guérie, il saute. Guérison spirituelle, il entre avec les serviteurs de Dieu dans le temple et il loue Dieu. L'esprit, l'âme, le corps connaissent une guérison instantanée, une guérison totale. Eh bien moi je te dis que ce soir, au travers de tout le livre de l'Apocalypse, il y a ce souffle qui traverse les pages où Dieu m'appelle à un esprit de victoire. Je vais m'arrêter là. On est de revue, hein. Il y a tellement de choses à dire. Je ne pense pas qu'on aille jusqu'au bout, mais ça ne fait rien. Il vaut mieux laisser à Dieu la possibilité d'agir dans nos vies. Ce soir, il faudrait que nous réagissions honnêtement. Mon frère, si tu marches, bénis le Seigneur. Et attention, que celui qui est debout prenne garde de ton. Seigneur, je suis debout par ta grâce. Je marche par ta grâce. Tiens-moi debout jusqu'à mon dernier souffle. Tu as été debout, et ce soir tu es par terre. Alors Jérémie pose une question. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Je voudrais vous poser une question tout simple. Je ne suis pas en train de faire un appel tout de suite. Ça va peut-être venir dans quelques secondes. Mais quels sont ceux qui, au milieu de nous, depuis qu'ils sont nés, sont tombés au moins une fois par terre, lever la main? Moi j'allais parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Oh, si vous ne levez pas la main, vous êtes des menteurs. Hein. Racontez pas d'histoire. Depuis que vous êtes né, vous êtes au moins tombé une fois par terre. Oui ou non? Quels sont ceux qui sont jamais tombés que je vois les menteurs? Bon, tout le monde est tombé au moins une fois. Mais vous êtes là. Soit parce que quand vous étiez trop petit, on vous a relevé, on vous a aidé. Soit parce qu'adulte, il y a un petit peu une honte, hein, on a remarqué quand on se ramasse devant les autres, il y a une seconde de honte. Ben oui, c'est pas glorieux de se ramasser par terre. Hein. Alors on vit, on se relève. Nous sommes là ce soir parce que physiquement, quand on est tombé, on s'est relevé. Comment ça se fait qu'on n'a pas la même réaction quand c'est spirituel? Le diable nous fait tomber, puis d'un seul coup, on dit, oh ben voilà. C'est comme ça, je n'arriverai jamais, je ne serai jamais un vrai chrétien, je ne pourrai jamais. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Alors ce soir, le Seigneur veut te relever. Ça, je crois, ça. Il veut te relever. Faire de toi un vainqueur. Debout sur tes pieds pour marcher, le Seigneur. Et puisque tu es mal né, dira, Seigneur, tu sais que je me suis authentiquement converti. Et ça, on ne discute pas ça. Quand je me suis fait baptiser, Seigneur, ce n'était pas une comédie, ce n'était pas léger, ce n'était pas superficiel. Vraiment, je t'ai donné ma vie. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer. Quelque chose ne s'est pas fait. Je suis né, mais infirme spirituellement. Je n'ai jamais pu vraiment marcher. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais élevé ma voix dans les réunions de prière. Ça fait 25 ans que je suis chrétien. Je ne parle toujours pas en langue. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, je n'exerce aucun don spirituel. Aucun. Ni la diversité des langues, ni l'interprétation des langues, ni la prophétie. Et pourtant ça, tu veux donner ces dons-là à chacun. C'est écrit dans ma Bible. C'est écrit, comme vous le pouvez. Seigneur, ça fait 10 ans que je suis converti. Je ne t'ai gagné aucune âme. Je vais arriver là-haut, j'aurai aucune perle à mettre sur ta couronne. Je n'ai gagné aucune âme. Seigneur, je suis infirme. Je ne marche pas. Lire ma Bible, parce que je sais lire, c'est toute une histoire. Ce n'est pas un acte d'amour, c'est une corvée. C'est une contrainte. Tu es mon bien-aimé, et pourtant, j'éprouve beaucoup moins de plaisir à venir en ta présence que quand je me retrouvais avec ma fiancée. Oh, elle était belle. C'était l'heure du rendez-vous. On allait être ensemble, se parler, mon cœur battait, je bondissais de joie. J'éprouve même pas ça pour toi, Seigneur. La prière, mais quand je t'ai fait une prière d'une minute et demie, j'ai plus rien à te dire. Le cœur est sec. Mes chevilles sont faibles. Je n'ai jamais marché. Et pourtant, quand tu montres à Jean la nouvelle Jérusalem, c'est la victoire. C'est ton triomphe. C'est ta victoire. Et moi, je veux ce Dieu-là dans ma vie. Je veux ce Seigneur-là dans ma vie. Voulez-vous qu'on se recueille maintenant quelques instants?